Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un document assez intéressant sur la façon dont une école particulière adapte ses pédagogies pour certains élèves. L'idée affichée, c'est de créer un cadre qui soit à la fois structurant, bienveillant et aussi stimulant pour que chaque jeune puisse construire sa propre réussite. C'est l'expression utilisée, une réussite en construction. J'aime bien cette formule, ça montre que c'est un processus, quoi.
Oui, tout à fait. Ça suggère un cheminement progressif. Et ce qui est bien dans la source, c'est qu'elle va au-delà des grands principes. Elle détaille des choses très concrètes.
Ah oui. Comme quoi, par exemple ?
Elle décrit la méthode Teach, pour les élèves qui ont des troubles du spectre de l'autisme, les TSA, et puis aussi des classes dédiées pour la dysphasie ou la dyspraxie. Donc, on va voir un peu les objectifs derrière tout ça.
D'accord. Alors, plongeons un peu là-dedans. Comment tout ça s'articule sur le terrain ? Qu'est-ce qui lie ces différentes approches, au fond ?
Le fil conducteur, c'est vraiment ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Le document insiste beaucoup là-dessus.
La différenciation ?
Oui. L'idée, c'est de ne pas appliquer une seule méthode pour tout le monde, mais d'adapter l'enseignement aux besoins, aux particularités de chaque élève, pour qu'il puisse avancer à son rythme.
Adapter. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Juste des exercices différents ou ça va plus loin ?
Ça peut être ça, bien sûr, mais c'est souvent plus large. Différencier, ça peut vouloir dire ajuster les objectifs d'apprentissage, varier les supports, plus de visuels pour l'un, par exemple, ou accorder plus de temps, utiliser l'ordinateur.
D'accord.
En fait, c'est vraiment la pédagogie qui s'adapte à l'élève, et pas l'inverse. Et le but commun derrière tout ça, c'est bien sûr les apprentissages de base, mais aussi la confiance en soi, l'autonomie, et si possible, faciliter l'inclusion, ou au moins le lien avec le milieu ordinaire.
Très clair. Commençons peut-être par cette méthode THC, pour les élèves avec TSA. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Le document parle beaucoup de structure, il me semble.
Oui, la structuration, c'est vraiment le cœur de TSH. Pour beaucoup d'élèves avec autisme, le monde peut paraître un peu chaotique, imprévisible, surtout les codes sociaux, qui sont souvent implicites. Ça peut générer pas mal d'anxiété.
Je vois.
Alors TIC, justement, essaye de rendre l'environnement, l'espace, le découpage du temps, les tâches à faire, le plus clair, le plus prévisible possible. Souvent avec des aides visuelles, des plannings, des pictogrammes. C'est un peu comme donner une carte, quoi.
Ah, d'accord. Donc la structure visuelle, c'est pas juste pour calmer l'anxiété, c'est carrément un outil pour décoder le monde scolaire et social. Une sorte de traduction.
C'est exactement ça. Ça aide à anticiper, à comprendre ce qu'on attend d'eux. Et au-delà de la structure, TICH vise aussi à développer la communication, qu'elle soit verbale ou non d'ailleurs. L'important, c'est qu'elle soit fonctionnelle, que l'élève puisse exprimer ses besoins, ses choix.
D'accord.
Et puis, il y a tout le travail sur les compétences sociales, l'autonomie dans les gestes du quotidien grâce à des routines bien établies et bien sûr, l'adaptation des apprentissages en s'appuyant sur leurs points forts qui sont souvent visuels.
C'est vraiment une approche globale. Et pour les élèves dysphasiques, alors, ceux qui ont un trouble spécifique du langage oral, comment ça se passe dans leur classe dédiée ? L'enjeu est différent, j'imagine.
Oui, là, l'enjeu est centré sur le langage oral, bien sûr. L'objectif numéro un, c'est de renforcer la compréhension et l'expression. Mais ce qui est très important aussi, c'est d'aider l'élève à développer des stratégies pour compenser ses difficultés.
Des stratégies de compensation ? Ben oui, comment faire quand on ne trouve pas ses mots ou quand on ne comprend pas bien ce qui est dit ? Là encore, les supports visuels sont très utilisés. Des images, des pictogrammes, des schémas pour soutenir le langage.
Mmh.
On va aussi viser une lecture et une écriture qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire utile dans la vie de tous les jours, sans forcément rechercher la performance académique pure.
Et un point crucial, travailler l'estime de soi. Parce que ces difficultés de langage, ça peut vraiment saper la confiance.
On voit bien le lien, oui.
Le document parle aussi de la dyspraxie. Ça touche la coordination, la planification des gestes, c'est ça. Quelle est l'approche pour ces élèves-là ? Exactement. Pour la dyspraxie, le défi est plutôt du côté moteur et de l'organisation du geste. Donc les objectifs, ça va être d'améliorer l'organisation dans l'espace et dans le temps, qui est souvent difficile pour eux, de travailler une motricité plus adaptée.
Ok.
Mais surtout, on va chercher à mettre en place des outils pour contourner la difficulté motrice. L'ordinateur, par exemple, c'est un outil formidable pour remplacer une écriture manuelle qui leur coûte énormément d'efforts. Ce que le document appelle les TIS.
Les TIS, oui. Les technologies de la formation.
Voilà. Donc l'idée, c'est pas seulement de rééduquer le geste à tout prix, mais de permettre à l'élève d'accéder à la tâche, à l'apprentissage, par un autre moyen.
D'accord. Donc on allège la charge motrice en quelque sorte.
C'est ça. On allège cette charge pour qu'ils puissent concentrer leur énergie sur l'objectif principal de l'activité. Ça peut aussi passer par des guides visuels pour décomposer une tâche complexe en étapes simples. Et comme pour les autres, bien sûr, on travaille à renforcer l'autonomie dans les gestes du quotidien. Habillage, repas, c'est important pour leur bien-être général. Finalement, que ce soit TEACH pour structurer, les aides visuelles pour la dysphasie ou les outils numériques pour la dyspraxie, l'idée de fond, c'est toujours la même. Une adaptation vraiment fine, individualisée, pour permettre à chaque élève de développer tout son potentiel, la confiance, l'autonomie, les apprentissages, et de trouver sa place, si possible en lien étroit avec l'école ordinaire.
Cette exploration, elle montre bien toute la richesse, mais aussi la complexité de ces pédagogies adaptées. Mais ça m'amène à une question, peut-être pour finir. Si toutes ces stratégies, la structuration de l'environnement, le recours au visuel, les outils pour compenser sont si bénéfiques pour ces besoins spécifiques, est-ce qu'on ne pourrait pas, ou est-ce qu'on ne devrait pas, s'en inspirer davantage dans les classes ordinaires ? Pour tous les élèves, en fait. Pas seulement ceux qui ont un diagnostic précis. Vaste question, sans doute.